9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, je vous souhaite un très bon week-end. On va revenir sur la difficile semaine de Joe Biden avec une évacuation d'Afghanistan particulièrement humiliante, 4 jours de dévastation provoquée par l'ouragan Aïda et la Cour suprême qui fait des siennes. Jean-Éric Brana est mon premier invité ce matin. Et puis c'était la rentrée scolaire, 12 millions d'élèves ont repris la classe et avec eux 870 000 enseignants. Cécile Chabot en fait partie, elle vient de publier « Tu fais quoi dans la vie, prof ?» l'un des livres les plus drôles du moment. Et l'on terminera l'émission avec Gaël Tchakalov qui fait du gonzo journalisme avec les époux Macron.
Europe 1.
Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous enseignez à l'université d'Assas, vous êtes chercheur au Centre de Relations Internationales Thucydide, spécialisé dans la politique américaine, vous êtes auteur d'une biographie de Joe Biden et d'une autre de Kamala Harris qui vient de paraître chez Nouveau Monde. Alors la semaine a été éprouvante pour Joe Biden, avant même les 4 jours de dévastation de l'ouragan Aïda, on va y revenir. Les images de l'évacuation américaine d'Afghanistan ont été particulièrement humiliantes pour la plus grande puissance américaine. Les soviétiques s'étaient retirés en bon ordre il y a 30 ans.
Oui, effectivement, c'est un moment difficile. À la liste que vous avez donnée, on va rajouter qu'il y a une pandémie qui est repartie aux États-Unis alors que Biden promettait de la gérer au mieux. Il y a une législation sur les armes qui fait que ce débat repart et vous avez parlé de la Cour suprême, mais on doit parler du dossier de l'avortement qui est effectivement au premier plan. Tout ça, effectivement, est très difficile pour Joe Biden et sa cote de popularité subit un contre-coup puisqu'il est descendu à 45% de bonnes opinions, ce qui est son plus faible score depuis qu'il est arrivé. C'est à peu près une chute de 9 points depuis son élection. Donc c'est vrai que c'est un moment difficile avant une rentrée qu'il espère différente, puisqu'on va parler d'économie dans les jours qui viennent. Et c'est là-dessus qu'il compte pour rebondir.
Suite à l'Afghanistan, un certain nombre de commentateurs aux États-Unis, comme Robin White, Alistair Hiss ou Francis Fukuyama, voient là-dedans la fin du règne américain.
Alors ça fait un petit moment qu'on voit la fin du règne américain en réalité. On le voyait avec un désengagement de la plupart des théâtres d'opération sous la présidence Obama, avec un désengagement encore plus fort sous la présidence Trump. Aujourd'hui, la société américaine ne veut plus de ces guerres loin de chez elle. Elle ne veut plus payer pour des causes qu'elle ne soutient pas ou qu'elle ne comprend pas. Et c'est vrai que les Américains aujourd'hui vont agir différemment. D'abord pour leurs propres intérêts, comme le font en priorité tous les pays, bien évidemment. Et puis c'est vrai que ce pivot asiatique qu'avait annoncé Barack Obama est l'émergence de la politique étrangère des États-Unis à l'avenir. Le reste intéresse en moins les Américains parce que, et comme je le disais, ils n'y ont pas un intérêt immédiat.
Alors samedi prochain, ce sera le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre qui avait entraîné évidemment l'invasion de l'Afghanistan, puis l'invasion de l'Irak, déstabilisant complètement le Moyen-Orient en faveur de l'Iran. La guerre contre le terrorisme qui est toujours d'actualité, la prison de Guantanamo qui est toujours ouverte, c'est toujours une zone de non-droit où l'on est détenu sans procès, il y a actuellement une quarantaine de prisonniers. L'Amérique n'a jamais retrouvé au fond le prestige qu'elle avait à la fin du 20e siècle.
Et moi j'ai envie de dire, elle a jamais retrouvé son équilibre qu'elle avait au XXe siècle. Et on est quelques-uns à être assez vieux pour avoir connu ce monde d'avant le 11 septembre. Le 11 septembre est un choc, pas simplement parce que des tours s'écroulent, mais parce que l'Amérique est attaquée à l'intérieur et que le terrorisme effectivement s'invite dans cette société. La peur s'invite en même temps. La fragilité est révélée, celle des États-Unis qu'on croyait surpuissante et inviolable. Et c'est vrai que depuis, eh bien, elle vacille sur ses propres bases. On est aujourd'hui dans une Amérique qui est en difficulté vis-à-vis du reste du monde et qui a tendance à se recroqueviller. On voit que ça ne fait que s'amplifier avec le temps. L'Afghanistan est un révélateur de tout cela parce que cette débandade dont vous parliez à partir du 15 août a ramené au premier plan le 11 septembre d'une façon tellement violente qu'on a dépassé les commémorations des 20 ans. On a l'impression de les revivre aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la presse, les différents médias américains qui passe en boucle ce 11 septembre avec les avions qui s'écroulent sur ces tours comme à l'époque, qui s'écrasent plutôt que s'écroulent. Et c'est vrai que la violence qui a été ressentie à ce moment-là est à nouveau ressentie aux États-Unis aujourd'hui.
Si elle n'a jamais retrouvé son prestige, c'est aussi qu'elle a un challenger aujourd'hui, c'est la Chine qui rêve de dépasser l'Amérique dans tous les domaines.
Oui, et là encore, on voit l'ombre de l'Afghanistan, puisque c'est aussi une ça fait partie de l'humiliation générale de cette affaire d'Afghanistan. La Chine a toujours son ambassade sur place. Elle est déjà en train de mettre un pied. Les talibans, d'ailleurs, ont dit qu'ils voulaient travailler avec la Chine, même si la Chine reste méfiante. Elle est déjà sur place, alors que les Américains ont été obligés de partir. N'oublions pas qu'en Afghanistan, vous avez des métaux rares et beaucoup de cuivre qui servent notamment pour fabriquer des batteries, donc éléments du futur absolument essentiels dans l'économie d'aujourd'hui. Et cette compétition sans cesse entre les Chinois et les Américains, eh bien, elle est à l'avantage des Chinois, assurément, et aucun président n'arrive à trouver la solution, même si, comme je le disais, Biden compte sur l'économie, puisqu'il a un grand plan d'infrastructure pour essayer de ramener de l'industrie et de la main-d'œuvre non qualifiée aux États-Unis. C'est un véritable défi d'ailleurs qui s'ouvre à ce pays pour les années à venir.
Les travailleurs américains sont quand même toujours plus productifs que les travailleurs chinois, hein, on l'oublie.
C'est effectivement une réalité. Reste que la délocalisation des entreprises massive hein, en Chine a fait beaucoup de mal, notamment au nord-est du pays, qui fait que ces travailleurs, tout productifs qu'ils soient, se sont souvent retrouvés sans travail ou pas avec le travail qui correspondait à leur qualification pour beaucoup d'entre eux. D'où cette colère qui s'est manifestée en 2016 avec l'élection de Donald Trump et qui continue à se manifester puisque le problème n'est pas résolu aujourd'hui.
Alors il y a eu l'ouragan Ida qui a balayé la Louisiane, qui a inondé la côte est des États-Unis. New York n'avait jamais vu ça. Et Joe Biden parle franchement du réchauffement climatique. Hein.
Oui, je suis à peu près du même avis. Il y a 20 ans, on nous montrait des images du futur en nous disant qu'il y aurait des inondations monstres sur les côtes. New York faisait partie de ces petits films qui étaient montrés à l'époque. On a exactement les images qui étaient annoncées. C'est assez effarant d'ailleurs de voir cela. C'est vrai que si la Louisiane a pu s'en sortir plutôt pas mal cette fois-ci, si on compare à Katrina, c'est parce que des mesures ont été prises justement pour essayer de renforcer les digues et faire en sorte que les villes soient protégées. Mais la peur est toujours là. Elle le sera sur les futurs ouragans qui vont arriver. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, donc ça monte, y compris sur le nord-est, sur le New York, sur la Nouvelle-Angleterre. C'est assez terrible aussi parce qu'on se souvient désormais que New York, c'est aussi une ville où les gens vivent dans les sous-sols, qui payent une fortune d'ailleurs en vivant comme des rats, et aujourd'hui qui ont été inondés. 49 morts au dernier bilan, ce sera peut-être plus. C'est absolument terrible. Donc c'est vrai que l'avenir passe aussi par une lutte contre le changement climatique, une lutte beaucoup plus forte qu'elle ne l'est actuellement. Ça fait partie du programme de Joe Biden. C'est le contraire, bien sûr, pour les républicains. On le sait bien, qui sont climato-sceptiques et qui expliquent que ce ne sont que des aléas de la nature. Le débat est donc sur la table aujourd'hui.
Jean-Éric Brana, on fait une pause. On se retrouve juste après. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'Amérique. Hein.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Jean-Éric Brana. On revient sur la difficile semaine de Joe Biden. Alors, le fait de dire que l'Amérique est divisée, c'est devenu un poncif hein, depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Toujours est-il que là, on a été assez frappé par cette Cour suprême qui bloque une loi réduisant drastiquement le droit de l'avortement au Texas. Comment faut-il l'analyser, à votre avis ?
Alors je crois qu'il faut surtout pas l'analyser avec des termes politiques en disant que la Cour suprême a accompagné le mouvement des républicains du Texas. En réalité, la Cour suprême, qui d'après la Constitution est une cour d'appel, a joué son rôle de cour d'appel et elle a constaté qu'il n'y avait eu aucune décision auparavant par aucune cour de justice, donc elle ne pouvait pas donner son avis pour ou contre la décision qu'il y avait eu avant, qui n'avait donc pas existé. Donc elle demandait à ce qu'il y ait une décision, qu'on revienne la voir, et à ce moment-là, elle allait aller exprimer son avis. Avis qui sera bien entendu en faveur du renforcement ou de la continuité du droit à l'avortement, puisque c'est une jurisprudence et que la plupart des juges qui sont dans cette cour, tout conservateur qu'il soit pour certains, ont promis de s'en tenir à la jurisprudence. Il n'y a qu'une juge en réalité qui est fermement anti-avortement, c'est la juge, dernière juge nommée en catastrophe par Donald Trump, c'est Amy Coney Barrett. Pour le reste, je ne crois pas qu'il va se passer grand-chose. D'ailleurs, cette nuit, une cour de district vient d'interdire au groupe anti-avortement de poursuivre les femmes qui font des avortements. Rappelons simplement que malgré cette loi, l'avortement est toujours légal aujourd'hui au Texas, quoi qu'il puisse s'écrire ou se dire ici ou là.
Oui, il est légal, mais pendant 6 semaines, pas plus long.
Non, il est légal pendant tout le temps qui est aux États-Unis. La loi prévoit qu'après 6 semaines, vous avez le droit de poursuivre la personne qui a fait un avortement ou les médecins qui l'ont aidé. Encore faut-il que vous ayez la preuve que ça s'est fait après 6 semaines, qu'il n'y a pas de raison médicale express de le faire et que vous ayez les finances nécessaires pour pouvoir aller en justice. Ça fait beaucoup de conditions quand même pour aller en justice. Et puis le juge au civil va vous demander quel est le préjudice que vous avez subi puisque c'est la base du droit civil. Et là, vous êtes bien en peine de mettre un motif derrière cela.
Jean-Éric Brana, vous venez de publier une biographie de Kamala Harris chez Nouveau Monde, la première femme vice-présidente des États-Unis. Vous l'avez d'ailleurs sous-titré l'Amérique du futur. Est-ce qu'elle est acceptée dans le pays depuis qu'elle a pris sa fonction ?
Alors, oui et non. Comme vous l'avez dit, l'Amérique est très polarisée aujourd'hui. Donc forcément, vous allez mettre déjà 50% des gens qui vont la refuser et vous aurez un premier point. Pour les démocrates, il y a aussi une vraie division entre la gauche de la gauche qui, c'est vrai, refuse pour l'instant Kamala Harris. Il lui reste donc 35%, ce qui est la base nécessaire pour pouvoir lancer une campagne. Ceci étant dit, elle a le rôle de vice-présidente. Et aux États-Unis, les Américains donnent toujours l'investiture à un vice-président sortant et forte ensuite du bilan de Joe Biden, elle se lancera. Si ce bilan est bon, elle n'aura aucun problème à être élue derrière. S'il est moins bon, ce sera un petit peu plus difficile pour elle. Il lui faudra faire ses preuves et à ce moment-là, on va regarder davantage sa personnalité. Elle est très très proche de Joe Biden. Elle a un slogan, je n'essaie pas de changer la société et j'essaie de résoudre le problème qui réveille les gens en pleine nuit. C'est donc là-dessus que Kamala Harris essaie de se construire aujourd'hui en étoffant son personnage puisqu'il lui manque encore une dimension internationale. Mais on voit que, par exemple, avec son déplacement en Asie de la semaine dernière, elle commence déjà à travailler cette question-là.
Alors, c'est une femme de couleur, Kamala Harris, qui a beaucoup d'importance aux États-Unis. Mais vous avez raison de mentionner le fait que les électeurs de la gauche radicale, les électeurs de Bernie Sanders, ne l'aiment pas beaucoup. Il ne faut pas confondre, hein, Kamala Harris, ça n'est pas une radicale.
Non, ce n'est pas une radicale. C'est quelqu'un qui a ménagé la chèvre et le chou, on pourrait le dire comme ça, ou pour faire un petit peu une analogie à ce qui se passe chez nous, fait du en même temps. Et elle a fait ça pendant toute sa carrière, ce qui n'est pas plaît pas beaucoup, bien sûr, à la gauche radicale. Elle a aussi quelques faiblesses, par exemple sur la peine de mort, où elle aurait pu prendre des positions un peu plus marquées à un certain moment, notamment en 2014, quand un juge a déclaré la peine de mort illégale en Californie et étant procureur, elle a pensé qu'il était judicieux de faire appel de cette décision au nom de ce que pouvaient espérer les électeurs qui comprenaient aussi des conservateurs alors qu'elle-même était contre la peine de mort. Ça, c'est trop politique et trop intellectuel pour les électeurs de base ou les électeurs moyens et pour tout le monde en réalité. Donc c'est ce genre de choses qui déplaît un petit peu chez Kamala Harris, voire beaucoup. Et pour le reste, elle a quand même une carrière qui est d'abord fulgurante et qui s'inscrit dans l'héritage de ses propres parents qui ont été des militants très actifs dans les années 60. Et cet héritage-là, elle le porte non seulement dans ses gènes, mais également dans son engagement politique.
Alors Kamala Harris, en tant que vice-présidente, n'a pas seulement de l'importance parce qu'elle pourrait bien être et la prochaine candidate et la prochaine présidente des États-Unis. Elle a son importance
parce qu'elle... La première,
oui, pardonnez-moi. moi. Elle a son importance parce qu'elle a un rôle dans cette administration. Elle est chargée en particulier de l'immigration, qui est le cheval de bataille des Républicains et de Trump en particulier. Et puis elle est chargée du redécoupage électoral, autre sujet de tension, alors que la défiance à l'égard des institutions n'a jamais été aussi grande.
Oui, elle est chargée aussi, comme je le signalais tout à l'heure, de l'ouverture à l'Asie. Et c'est ce qu'elle vient de faire avec son voyage au Vietnam la semaine dernière. Joe Biden l'a placée effectivement sur les dossiers les plus sensibles. Alors ça, c'est très intéressant parce que on voit que dès le départ, il a mis sur la rampe de lancement. Alors, bien sûr, il y a des projets de loi derrière. Pour l'immigration, il y a un projet de loi qui est le premier projet de loi déposé au Congrès dès la première heure de la présidence de Joe Biden, et que l'administration va pousser jusqu'au bout pour essayer de résoudre notamment le problème de ce qu'on appelle les Dreamers aux États-Unis, donc tous ces jeunes qui étaient arrivés enfants aux États-Unis dans les bagages de leurs parents, si je peux le dire ainsi, et qui ne connaissent que les États-Unis et n'ont plus d'attache dans un pays d'origine et qui sont sans statut dans ce pays. Et ça sera une grosse victoire pour Biden s'il arrive à résoudre ce problème que Barack Obama n'avait pas réussi à solutionner.
Je vous interromps malheureusement Jean-Éric Brana, le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Merci d'avoir été mon premier invité sur Europe 1 ce matin.
Merci, on fait une pause.
À bientôt et on retrouve Cécile Chabot.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Cécile Chabot.
Bonjour.
Tu fais quoi dans la vie, prof? C'est le titre du livre que vous publiez à l'Archipel. Alors à chaque rentrée scolaire, les livres écrits par des profs pullulent dans les librairies. Ils font généralement le procès de l'éducation nationale. Ce sont des pages et des pages de lamentations. Le vôtre est anormalement drôle. Vous avez pourtant exercé longtemps dans le 93, dont la réputation dans votre profession est exécrable.
Oui, je n'avais pas du tout envie de faire le procès de l'éducation nationale. On en a soupé des livres qui se plaignent, qui râlent. Je laisse le soin aux polémistes, aux essayistes, aux syndicalistes de le faire. Moi, ce n'était pas du tout le but de mon livre.
Je ne sais pas quel était le but, mais en vous lisant, on aurait presque envie d'être à votre place, tant vous appréciez vos sixièmes, vos quatrièmes, vos troisièmes, en dépit de leur faute d'orthographe, de leur ignorance souvent crasse. Votre livre, il faut le dire, n'est pas politiquement correct, vous les traitez de tous les noms, mais il est tellement vivant et bien écrit qu'il devrait encourager les vocations. Pour vous, j'ai l'impression que prof, c'est le plus beau métier du monde quand même.
Ah oui ? Bon, ça dit, je ne sais pas faire autre chose. Hein. Je suis prof de français, je ne saurais pas faire autre chose.
Vous savez écrire, croyez-moi, vous savez écrire.
Oui, oui. Non, c'est un métier qui est extraordinaire. C'est un métier dans lequel... Bon, moi, je pensais très naïvement arriver, faire mon cours de façon très magistrale. Et en définitive, je m'aperçois que c'est un métier qui est très enrichissant, qui plein d'échanges, j'en apprends tous les jours. Et donc, un jour, je me suis dit, il faut absolument compiler tout ce que tu vis... Voilà, donc j'ai une démarche assez naturaliste, c'est-à-dire que j'ai la matière devant les yeux et puis le soir je rentre et je couche sur le papier. Et en mélangeant d'ailleurs mon style, qui est quand même, je pense, le style de quelqu'un qui maîtrise la langue française, et puis leur vocabulaire, afin que ce soit... c'est la rencontre de ces deux univers.
Oui, c'est un peu le petit Nicolas, sauf que le petit Nicolas, c'était en primaire, là, ils sont au collège.
C'est exactement
mais
ça.
Mais à peu près le niveau est le même.
Oui, c'est ça, c'est le même esprit, c'est un esprit potache quand même.
En même temps, tout n'est pas rose. Hein. L'argent manque, le nivellement par le bas, la bureaucratie qui donne envie de s'arracher les cheveux. Je ne savais pas, par exemple, que vous n'aviez pas le droit de toucher au cartable d'un élève pour vérifier s'il avait son carnet.
Non, c'est défendu, effectivement. On n'a pas le droit de toucher au cartable, on n'a pas le droit de les toucher. Bon, après, voilà, le bon sens et la bienveillance font qu'on s'autorise certaines choses. Voilà, je le dis... il m'est arrivé de donner un coco sur la tête à quelqu'un qui
un coco.
Ouais, un coco, une petite tape sur la tête à un élève qui bavardait, mais il voyait bien que c'était pas fait pour l'humilier ou quoi que ce soit, donc ça passait sans problème.
Vous dites un coco, en fait vous avez pris leur vocabulaire. Ils ont plus d'influence que vous n'en avez sûr.
Non, mais je crois que... Alors là, pour le coup, un coco, c'est pas quelque chose...
Moi, j'en ai resté à un œuf dur, le coco. Enfin, un œuf, quel qu'il soit. Alors, non, il faut savoir, Cécile Chabot, que vous avez fait 6 années d'études de lettres.
Oui, quand même.
10 ans de latin, 50 phonétiques historiques. Et c'est de la linguistique comparée et de littérature médiévale. Tout ça pour arriver devant des élèves de 6e, dont un quart à peu près mélange l'alphabet à partir du L.
Oui, mais bon, je suis... Justement, Exactement, je suis d'accord.
Je le dis parce que vous le dites dans votre livre.
Oui, je le dis, de façon humoristique. Et puis je le dis parce que c'est vrai, mais je pense qu'il faut qu'on ait une bonne dose de savoir pour pouvoir vulgariser au mieux et transmettre au mieux. Voilà, c'est un vrai métier, c'est un métier qui nécessite d'avoir fait des études. Et moi, ça me permet justement de faire des digressions savantes et de leur apprendre plein de choses.
Vous n'arrêtez pas, vous aimez bien choquer vos élèves en fait, en leur faisant lire La Chevelure de Maupassant, qui est une nouvelle sur un nécrophile quand même, ou en leur montrant L'Origine du Monde de Courbet.
Ah bah la chevelure, je commence par la définition de la nécrophilie. Alors là c'est vraiment, c'est les lamentations, c'est les Siciliennes en deuil, ça hurle. Voilà, oui, ils sont très choqués, mais justement, ils sont toujours dans la provocation et ils s'imaginent qu'ils vont nous choquer, qu'ils vont et en définitive, il faut leur montrer que ils ont rien inventé. Hein.
Oui, certainement. Vous avez exercé à la fois dans le 93 et aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement de l'Ouest parisien, juste à côté de cette radio d'ailleurs, plutôt bourgeois. Est-ce que le système est aussi terriblement inégalitaire qu'on le dit? Selon l'endroit où l'on habite et la profession des parents, on réussira ou pas à l'école? C'est ce qu'on se dit en général.
Il y a un déterminisme, c'est vrai, et c'est pour ça que l'éducation nationale se doit de garder un haut niveau d'exigence pour permettre à absolument tout le monde de s'élever. Voilà, parce que si on décrète qu'on ne donne pas de devoirs au motif que les enfants défavorisés ne pourront pas les faire dans leur famille, dans les familles favorisées, on palliera cette défaillance. On leur donnera des cours de soutien, des cours particuliers, et puis dans les familles défavorisées, il ne se passera rien. Donc, on creusera encore le fossé. Et ça me met en colère.
Il y a une bienveillance que vous qualifiez effectivement de débilissime dans le livre, qui consiste, dites-vous, alors à ne pas donner de devoirs, à ne pas noter les élèves ou à corriger leurs copies avec des gommettes à paillettes plutôt qu'avec un bic rouge pour ne pas les traumatiser.
C'est un peu caricatural.
En fait, on ne les fait plus redoubler. Pourtant, vous aussi, vous êtes bienveillante.
Je suis bienveillante, mais je ne suis pas laxiste. Et je leur dis, c'était vraiment mon discours particulièrement au quatrième cette année, parce que les quatrièmes, ils en ont mangé de ce discours-là. Mais je leur ai dit dans les grands lycées, dans les grands collèges, ça rigole pas avec les exigences. Donc qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que je considère que vous êtes plus bête qu'eux et puis que je garde des exigences médiocres? Ou est-ce qu'on y va puisqu'on attaque les classiques? Et voilà, la réponse est unanime. Ils n'ont pas envie qu'on insulte leur intelligence. Et puis on a besoin de les nourrir intellectuellement. Moi, je ne comprends pas qu'on dise qu'on ait le discours selon lequel le travail peut traumatiser, ou le travail, il ne faut pas en donner trop. Alors, je vais peut-être paraître comme quelqu'un de réactionnaire, mais non, on peut donner le goût du travail bien fait, le goût de l'effort. Après, il y a la satisfaction. Moi, je sais que dans mes classes, je porte des projets mémoriels vraiment d'envergure, et les élèves sont impliqués, des projets sur la Shoah, sur la mémoire des poilus, et les élèves m'étonnent et s'étonnent eux-mêmes de ce qu'ils sont capables de produire. Il faut les pousser vers l'excellence.
Et cela, quelles que soient leurs origines sociales.
Évidemment, alors là, quelles que soient leurs origines sociales.
Alors, on est tous d'accord, tout le monde sait que le niveau a baissé. Il suffit d'ailleurs de comparer un livre d'il y a 40 ans avec aujourd'hui, ce que vous faites dans votre
livre.
Et d'ailleurs, j'ai revu des questions qu'on a dû me poser à l'époque et je n'ai pas su y répondre. Vous voyez,
non,
donc, il n'y a pas que les 4e et les 3e d'aujourd'hui.
Non,
qui s'appellent. Est-ce que c'était mieux avant? Vous avez été élève, vous aussi.
Ah oui, j'ai été élève. Non, je dis pas que c'était mieux avant. J'aime pas trop cette formule. Je suis pas passéiste. Néanmoins, force est de constater. Et encore une fois, c'est pas politiquement correct de le dire, mais. Moi, quand j'étais au collège, si je faisais 3 fautes d'orthographe, on m'enlevait 3 points. Et après, j'ai regardé à 2 fois. Aujourd'hui, si c'est le cas, j'enfile des perles sur un sautoir.
Alors, il y a des moments de beauté pure dans votre livre. Par exemple, après le meurtre des dessinateurs de Charlie Hebdo, dont vous parlez avec vos élèves, vous leur dites « on va observer une minute de silence ». Mais où, disent-ils? Mais où quoi, vous leur demandez? Et eux, vous avez dit de l'observer, mais elle est où?
Ben oui, oui, c'est... Mais tout le problème est là, en fait. Alors, évidemment,
le problème,
c'est...
mais en même temps, je trouve ça magnifique. Vous dites vous-même qu'Abu aurait adoré. C'est beau comme du Raymond Devos.
Ben c'est ça, oui. Néanmoins, il est quand même de mon devoir, derrière ça, de leur apprendre la polysémie. voilà, c'est ça. C'est, on part de petits détails comme ça, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait fait mourir de rire. Et tout de suite, je me suis dit, ça a été le déclic, tout de suite, je me suis dit, ce soir, tu racontes ça, ça fera partie des anecdotes de ton livre. Mais justement, je suis là par derrière pour rectifier le tir. Mais effectivement, je pense que Cabu aurait adoré.
Tu fais quoi dans la vie, prof? C'est le livre de Cécile Chabot qui vient de paraître à l'Archipel, un livre dont j'imagine qu'on reparlera beaucoup en cette rentrée scolaire.
Non, j'espère.
On se retrouve juste après une pause avec Gaël Tchakaloff qui va nous parler des époux Macron.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Gaël Tchakaloff, bonjour.
Bonjour.
Vous avez renouvelé le genre du livre politique depuis quelques années en pratiquant la connivence à un point d'incandescence jamais égalé. Une sorte de journalisme gonzo où vous vous mettez en scène au milieu de vos personnages. En plus, vous écrivez bien, ce qui nous plonge dans l'intimité de nos représentants. C'en est parfois gênant, comme l'émission Striptease un peu, hein, mais c'est délicieux. Dans votre quatrième livre qui vient juste de sortir, Tant qu'on est tous les deux, ce sont les époux Macron, les héros. Mais c'est pas la politique qui vous intéresse, c'est quoi vous?
À chaque fois, c'est des choses différentes qui m'intéressent. Mais là, sur ce livre-là, c'était l'histoire d'amour. C'était vraiment l'histoire.
C'est le couple.
Oui, mais parce qu'ils ont une histoire d'amour exceptionnelle. En fait, quand je les ai rencontrés en 2016, enfin lui en 2016 et elle en 2017, j'ai tout de suite vu dans la charnélité qui les unissait, la manière dont ils se touchaient, dont ils s'embrassaient, qu'il se jouait entre eux quelque chose d'absolument puissant et renversant. Et donc, tout de suite, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas quoi en faire. Et puis après, j'ai commencé à être amie avec elle. Enfin, en tout cas, je la considère comme mon amie.
Comme
et
tout, puis à j'ai peu oublié. Près tous les politiques à qui vous consacrez un livre, vous avez remarqué?
Pas du tout. Non, mais attendez, pas du tout. Non, mais la différence, c'est que les autres politiques auxquelles j'ai consacré des livres, je ne les connaissais pas avant de faire le livre. Eux, ça a été beaucoup plus compliqué, le coup présidentiel, parce que je les connaissais auparavant. Donc, à un moment, je me suis retrouvée dans une sorte de conflit de loyauté où j'ai eu peur, en fait, de mal me conduire. Et puis, finalement, je crois que je me suis très bien conduite.
Bon, ils vous en veulent pas?
Non, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Mais je crois que Brigitte Macron n'a pas lu le livre, donc c'est
alors,
facile.
Votre méthode, vous la résumez un peu à un moment dans le livre. Vous dites vivre avec vous, sniffer l'adrénaline, la joie, l'hystérie des moments forts, saisir les hauts, les bas, les égarements au gré des conversations volées, des retournements de situation quotidiens. Vivre avec votre meute, ils ne font plus attention à moi, ils m'ont oublié. J'ai l'impression que c'est toujours votre méthode, ça.
Non, mais c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais fascinée par le nouveau journalisme.
Ce que j'appelle le gonzo journalisme aussi.
Voilà. Alors, le nouveau journalisme, au départ, Norman Mailer, puis après Truman Capote. Et effectivement, après Hunter Thompson, je me suis intéressée au gonzo journalisme. Donc, je trouvais que c'était un moyen intéressant d'avoir une vie amusante, parce que moi c'est quand même, c'est pour ça que j'écris, c'est pour m'amuser.
Je rappelle que Hunter Thompson est resté célèbre pour avoir interviewé un candidat à la présidentielle américaine, oui, à l'époque, dans un urinoir, au moment où le bus s'arrêtait, il l'a interviewé pendant qu'il faisait pipi, quoi.
Voilà. Et moi je ne suis pas du tout intéressée par l'actualité. Je ne lis pas les journaux, par exemple, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais effectivement, il y a une forme de violence dans la politique, une frénésie qui m'amuse, et donc finalement c'est des gens qui sont c'est un zoo comme un autre, mais où se passe plus de choses, en fait il y a des animaux plus bizarres.
Ouais. Vous les mettez en valeur au fond, mais vous les montrez comme personnes, et parfois ils n'ont pas envie d'être vus. C'est le cas d'ailleurs, elle vous le dit, Brigitte Macron, et Emmanuel Macron vous le fait comprendre, ils n'ont pas envie d'être vus, exposés en tant que couple.
Ils n'ont pas envie d'exposer leur couple, parce que je pense qu'ils ont vécu des choses douloureuses au début de leur histoire, compte tenu de leur différence d'âge, compte tenu du fait qu'elle était sa professeure de théâtre et qu'ils étaient dans une ville de province où tout le monde jasait. Donc ils font attention de vraiment protéger et préserver leur couple. Mais finalement, ils ont cédé, bon, à l'usure, je les ai eus, quoi. Ils ont accepté finalement que je les suive. Voilà. Oui.
Vous êtes retourné à Amiens, d'ailleurs, où leur histoire d'amour est née. Vous évoquez ces commérages, les drames. Vous faites le parallèle avec Madame Bovary. Pourquoi ? C'est sinistre, Madame Bovary. Ça commence mal, ça finit mal.
parce que je trouve que Madame Bovary est quand même une des peintures les plus éclatantes de la bourgeoisie de province. La première raison, c'est ça. La deuxième, c'est que lui, une des premières fois où je l'ai rencontré, en 2016, j'étais dans sa voiture. À l'époque, je me mettais dans sa voiture, je me souviens. Donc, on faisait tous les déplacements ensemble. Et en plein milieu de la campagne française, il a commencé à comparer la campagne française avec Madame Bovary. Je me suis dit, le type est dingue quand même. Les autres, je suivais en même temps Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui me parlaient de politique, de leur programme, c'était hyper rasoir. Mais là, je tombais sur un type qui me parlait de littérature, de poésie, de Madame Bovary. La France, c'est comme Madame Bovary, elle est très sentimentale, etc. Et donc, après, quand j'ai rencontré sa femme, elle m'a parlé également de Madame Bovary. Donc je me suis dit, ça peut être un thème.
Et voilà, c'est ça, vous n'avez pas essayé de creuser davantage la similitude. Alors on découvre la mère d'Emmanuel Macron dans votre livre. Comment vous avez réussi à la convaincre d'apparaître ?
En fait, j'ai toujours eu envie de la rencontrer. Parce que
vous n'êtes pas la seule, j'imagine, tous les journalistes ont
non,
dû avoir
non,
envie
non,
de la
mais
rencontrer.
Moi, alors je vous rappelle que je ne suis pas journaliste.
Non, c'est vrai.
non, mais moi je voulais la rencontrer avant d'avoir l'idée de faire ce livre. Ce livre, j'ai décidé de le faire il y a 2 ans. Or, depuis 5 ans, je les vois régulièrement. En tout cas, je vois assez régulièrement Brigitte Macron. Mais j'ai toujours eu envie de la rencontrer parce que je sentais qu'elle tenait une pierre angulaire. Compte tenu de la difficulté qu'ils avaient eu à construire leur histoire tous les deux.
Au fond, c'est la psychologie qui vous intéresse, vous.
Oui, je vous dis, c'est les autres. Je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est les autres. Hein. Moi, c'est les autres. Moi, je vis avec les autres, donc c'est les autres qui m'intéressent. Donc là, aujourd'hui, c'est les Macron. Dans 6 mois, je pars au pôle Nord. Enfin, vous voyez, à chaque fois, c'est des gens différents. Ça sera des Inuits la prochaine fois, et puis voilà.
Et alors, la mère d'Emmanuel Macron, elle va absolument expliquer qu'en fait, son enfance, ça n'a pas été ce qu'on croit. Mais qu'est-ce qu'on croit ?
Paraît-il, était beaucoup écrit. Moi, je ne l'avais pas lu, mais apparemment, ça a été écrit par des journalistes politiques, je crois. Il a été beaucoup écrit que Emmanuel Macron était parti de chez ses parents à 5 ans avec sa valise à la main, vivre chez sa grand-mère. Bon, mais effectivement, moi, c'est une histoire qu'on m'avait beaucoup racontée. Et donc, lorsque je l'ai rencontré, effectivement, en tannant toutes les équipes de l'Élysée jusqu'à ce qu'on me donne son numéro de téléphone, elle m'a dit que c'était absolument faux. J'ai senti cette femme totalement retournée parce qu'effectivement, elle m'a dit, en fait, notre histoire de famille est normale, mais ça ennuie tout le monde, les histoires de famille normales. Donc, les journalistes ont inventé autre chose. Voilà, mais c'est une femme amusante. C'est une femme assez sauvage, assez brute, qui a un tempérament débordant, qui est dingue de son fils, qui l'appelle pour lui dire, mets ton manteau, il fait froid. Enfin, elle est marrante parce que c'est Madame Sarfati, quoi.
Oui, c'est une mère, tout simplement.
C'est une mère, oui.
Voilà, on fait une pause. Gaël Tchakaloff, on se retrouve juste après. On continue de parler du couple Macron.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Tant qu'on est tous les deux, c'est le titre du 4e livre de Gaël Tchakaloff. Il est consacré à Brigitte et à Emmanuel Macron. Pour ce livre, vous avez rencontré François Hollande qui vous fait un portrait assez précis d'Emmanuel Macron, mais il ne veut pas apparaître dans le livre, tout ça est off. Vous retirez son nom, mais vous faites tout pour que le lecteur puisse le reconnaître. Je me demande si c'est très élégant.
Ah mais je ne peux pas vous répondre, moi je ne sais pas si c'est François Hollande ou quelqu'un d'autre, en tout cas je ne répondrai pas. Non mais j'ai rencontré une personnalité politique de premier plan, effectivement, je ne peux pas vous dire si c'est François Hollande ou quelqu'un d'autre, mais cette personnalité m'a demandé de ne pas écrire son nom. Elle ne m'a pas demandé de ne pas la citer, elle m'a demandé de ne pas écrire son nom, donc je n'ai pas écrit son nom. Donc cette personnalité est appelée quelqu'un dans le livre. Effectivement, il y a quelques détails qui donnent...
Qui le dénonce totalement. Et on voit bien parce qu'il dit genre, je vais avoir l'air d'être un revanchard, etc. On peut le comprendre. Et bon, non, pof, il apparaît.
Le chapitre est très. Enfin, je pense que le chapitre est très dur. Il y a quelques chapitres comme ça au milieu du livre qui ne sont pas sortis de l'embedded, en fait, avec les Macron. Parce que le livre, quand même, correspond à un embedded de 2 ans. Je tiens à le signaler.
Embedded, c'est embarqué, ça veut dire qu'en fait,
immersion.
On est dépendant de
la vie quotidienne de celui que l'on suit.
Voilà, oui. Mais en même temps, on est accepté. Hein, on est embedded quand on part avec l'armée américaine en Irak, par exemple.
Oui, oui, mais moi, on m'a refusé. Attendez, ils m'ont refusé pendant plusieurs mois. Donc, je me suis tellement roulé par terre qu'ils ont fini par céder. Mais au départ,
ils m'ont... Vous parlez des Macron, pas de l'armée américaine. Bien sûr. Mais donc... ce qui est drôle, c'est que François Hollande, par exemple, il vous dit des trucs qui vous déplaisent et vous prenez résolument le parti pour Emmanuel Macron.
Oui, parce que, je vais vous dire pourquoi, ce quelqu'un en question, je trouvais qu'il attaquait tellement fort... que j'avais peur que le chapitre ne tienne pas debout. En fait, il en mettait tellement des tonnes et des louches de choses comme un peu vipérines quand même sur Emmanuel Macron, que j'essayais de prendre la défense du président pour diminuer en fait son propos en me disant autrement mon chapitre ne va pas tenir debout.
Mais quand vous interrogez Gaspard Ganzer, qui était le oui, conseiller en communication de François Hollande et qui est cité, lui, c'est pareil. Vous voyez bien, vous ne croyez pas vraiment ce qu'il vous dit sur Emmanuel Macron. On sent qu'au fond, vous êtes du côté de Macron, quoi.
Alors, moi, je suis toujours un petit peu du côté des gens que je suis, parce que si vous voulez, quand vous passez 2 ans tous les jours avec des gens, il vaut mieux les aimer un petit peu, hein, autrement c'est... Après, ça n'a rien de politique. Les gens m'ont très souvent demandé, les lecteurs, « Ah, mais comment vous avez fait pour suivre pendant 9 mois Marine Le Pen ?» Je veux dire, je suis pas lepeniste, pas plus que je suis macroniste.
Et voilà. Vous êtes bien entendu avec elle, hein, je me souviens. D'ailleurs, le livre était très drôle.
Oui, très, je me suis beaucoup amusée. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'empathie avec les deux personnages, qui sont Brigitte et Emmanuel Macron, qui nécessairement est liée au fait qu'on se voit régulièrement, qu'on se parle et qu'on vit, on partage une quotidienneté. Donc forcément, moi, si je...
Mais il y a autre chose. Je me demande si vous n'êtes pas toujours du côté du pouvoir, alors que ce soit celui de Marine Le Pen qui est à la tête du Rassemblement National ou celui d'Emmanuel Macron qui est à l'Élysée. Au fond, c'est celui qui est au pouvoir qui a raison.
Oui. Bah
et
non,
celui qui n'y est plus, comme François Hollande ou comme Gaspard Ganzer, bah forcément, il a un peu tort par rapport à celui qui a pris leur
alors,
place.
Alors d'abord, à aucun moment, j'ai donné tort à quelqu'un que vous nommez François Hollande ou à Gaspard Ganzer, puisque si j'étais pas d'accord avec eux, j'aurais pas repris leur inquiétude pour faire des chapitres.
Bah si, parce que c'est intéressant ce qu'ils disent quand même.
Je pense que c'est édifiant et tout à fait juste. Ensuite, du côté du pouvoir, je vous rappelle que j'ai suivi Alain Juppé dans tous ses méandres. Non, mais quand j'ai commencé à le suivre, il n'était pas candidat. Il était à la mairie de Bordeaux. Ouais. Donc non, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens sur lesquels on a une impression de jamais vu, c'est-à-dire on se trompe en fait. Les Macron, je savais que ce qu'on disait était absolument faux parce que je les connaissais, je les voyais à l'Élysée, j'allais prendre des petits déjeuners, des cafés, des dîners et tout. Je voyais bien que c'était complètement à côté de la plaque. Juppé, c'est parce que j'avais une amie qui travaillait avec lui qui m'avait dit « le mec est génial, il est tellement drôle ». C'était pas tout à fait l'image que j'avais de Juppé, donc je me suis ruée sur le truc, quoi.
Il y a Édouard Philippe qui vous fait une espèce de procès voilé en trahison ou en déloyauté. Qu'y a-t-il à lui reprocher ? C'est pas Chirac, ni Nicolas Sarkozy, ni Emmanuel Macron qui se sont dressés tous les trois contre celui qui leur avait fait la courte échelle. Pourquoi en vouloir à Édouard Philippe ?
Alors, je n'en veux pas. J'ai rien de personnel contre Édouard Philippe. Je le connais effectivement depuis longtemps parce que, effectivement, quand j'ai suivi Alain Juppé, il était l'un des lieutenants les plus proches d'Alain Juppé. Depuis, il me fait un peu la tête parce que je l'avais écrit dans. Je lui avais consacré un chapitre dans le livre sur Alain Juppé et il n'a pas aimé ce chapitre. Et après, il est devenu Premier ministre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, j'ai continué à écrire sur lui. Nécessairement.
Oui, mais déloyauté, on a l'impression qu'il est là et qu'il attend de faire un croche-patte au président de la République.
Je pense qu'il ne s'est pas... Non, mais je pense qu'il s'est pas bien... Non, je pense qu'il ne s'est pas bien conduit avec Alain Juppé. Ça, c'est une opinion.
Mais pas avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est réglo.
Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je vais quand même vous répondre. Avec Alain Juppé, il s'est, je pense, pas tout à fait bien comporté. Et avec Emmanuel Macron, je pense qu'il y aurait eu sans doute plus de délicatesse à sortir un livre à un autre moment et à pas faire un tel battage médiatique quand on a été Premier ministre d'un homme avant lequel on n'était rien. Voilà.
On pourrait dire la même chose d'Emmanuel Macron. Après avoir été ministre de l'économie d'un homme avant qui on n'était rien, on ne se présente pas aux élections.
Ah oui, non, mais de toute façon, la politique, et d'ailleurs Gaspard Ganzer le dit très bien dans le livre, c'est un sport où on se boxe. Voilà, on se colle par terre. On se colle par terre. Et ça, c'est la seule chose qui me dérange un peu, en fait. Par moments, je ne m'y retrouve pas. Et du coup, je pleurais très souvent pendant l'écriture de ce livre parce que, par moments, leurs codes me sont un peu étrangers.
Mais, par exemple, sur le couple Macron, en écrivant le livre, en l'écrivant lui-même, pas en le vivant, en l'écrivant, qu'est-ce que vous avez découvert sur eux ? Parce que c'est souvent à l'écriture qu'on découvre.
Non, c'était en le vivant. Parce qu'en fait, moi, je les écris et je les vis en même temps, les livres.
Oui,
en fait, la journée, je les suis et le soir, je rentre chez moi, j'écris. J'ai découvert chez tous les deux que c'est les plus grands affectifs de la Terre. Et c'est pas, c'était pas l'image qu'ils cherchaient à me donner, puisque moi, je les suivais depuis 2016. Ils sont hyper affectifs et c'est à la fois leur plus grande qualité et leur plus grand défaut. C'est-à-dire que, effectivement, quand un conseiller part de l'Élysée et qu'il y a un pot comme ça de départ, le président arrive en disant « je n'aime pas qu'on me quitte ». Et c'est très frappant. Et bon, pendant le suivi là, des 2 ans, très souvent j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux au Rwanda, par exemple. il avait très souvent les yeux embués. Il a eu les yeux embués quand il a rencontré des femmes battues. Alors là, il y avait 5 personnes, il n'y avait pas de caméra. Je veux dire, j'étais la seule à être accroupie au fond de la pièce et à le voir. Donc j'ai vu qu'il était à la fois très affectif et assez émotif, en fait. Voilà, ça c'est ce que j'ai découvert de plus saisissant sur eux.
Tant qu'on est tous les deux, c'est ce que répète Brigitte Macron hein, quand
c'est
elle parle
phrase,
de son mari.
Oui.
C'est le titre du 4e livre de Gaëlle Tchakaloff qui vient de paraître chez Flammarion. Merci Gaëlle.
Merci beaucoup Frédéric Taddeï.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. Vous avez maintenant rendez-vous avec Pierre de Villeneuve qui vient de pénétrer dans ce studio et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Pierre ?
Eh bien, nous parlerons d'Emmanuel Macron et de son déplacement à Marseille. Est-ce le début d'une campagne présidentielle non officielle ? On se demandera ce qui se passe à gauche, puisqu'aujourd'hui, c'est Arnaud Montebourg qui va se déclarer. Et puis, on se demandera si le passage par le 77 rue de Miromesnil est un passage obligé. C'est le bureau de Nicolas Sarkozy, pour tous ceux qui veulent y aller.
Bonne émission.
Merci.